Décryptage, Marie Cazadebé.
Dernier jour de campagne en Irlande pour les pro et anti-avortement avant le référendum de vendredi. Mais ce n'est pas sur un projet de loi que les Irlandais vont s'exprimer, c'est sur la levée d'un verrou constitutionnel, car la Constitution empêche aujourd'hui toute loi gravant dans le marbre le droit à la vie de l'enfant à naître. Le vote s'annonce serré, comme s'en réjouit ce militant anti-IVG.
Si j'étais dans le camp du oui, je serais plutôt inquiet. Ils ont perdu pas loin de 20% en deux mois dans les sondages. Leur avance a complètement fondu et l'écart se resserre.
Le huitième amendement qui pourrait être abrogé fait de l'Irlande l'un des pays européens où l'accès à l'avortement est le plus restreint. Mais le débat qui secoue ce pays rappelle celui qui en agite beaucoup d'autres, en Europe notamment, où le droit à l'IVG est sans cesse menacé et remis en question. La Pologne, la Hongrie, le Portugal, l'Italie. Qu'est-ce qui se joue autour de la question de l'avortement en Irlande? Pour commencer, c'est ce que l'on va voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Karine Fischer.
Bonsoir.
Merci d'être en duplex avec nous d'Orléans grâce à nos confrères de France Bleu. Vous êtes professeur des universités en études irlandaises et britanniques. Et nous sommes aussi au téléphone avec Véronique Seyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-présidente du planning familial en France et membre du collectif Avortement en Europe. Karine Fischer, que dit aujourd'hui la loi irlandaise sur l'accès à l'avortement ?
Alors en fait c'est la Constitution, comme vous l'aviez souligné, qui donne un droit égal à la vie, au fœtus et à la mère. Ce qui revient légalement à interdire pratiquement dans toutes les circonstances l'avortement.
Il y a quand même quelques exceptions et notamment grâce à une loi en 2013, votée en 2013.
Oui, cette loi a été votée à la suite d'un scandale autour de la mort d'une jeune femme. Elle a permis de faire en sorte qu'on puisse envisager l'avortement au cas où le fœtus ne serait pas viable et où la vie de la mère serait en danger. Voilà, donc ça reste vraiment très circonscrit.
Véronique Seyer, est-ce que l'Irlande est un cas à part au sein de l'Union européenne avec une inscription, donc on l'a dit, dans la Constitution de la valeur de l'enfant à naître notamment ?
Alors, l'Irlande est un cas à part sur la situation de l'avortement aujourd'hui, effectivement, sauf qu'il faut savoir que la Hongrie a inscrit dans la Constitution la question du droit à la vie dès la conception depuis 2011, dans ce qu'ils appellent la loi fondamentale de la Hongrie. Donc aujourd'hui, l'avortement est toujours autorisé en Hongrie, mais dans des circonstances où il est très difficile d'y avoir accès, comme vous le savez, on est en régression. Et plusieurs pays en Europe aujourd'hui, on a bien sûr en tête la Pologne, mais on peut avoir aussi en tête la Croatie, où il y avait une manifestation ce week-end des anti-choix. Plusieurs pays envisagent de restreindre ce droit à l'avortement en Europe.
Alors d'où la mobilisation en tout cas des pro-avortements en Irlande. Écoutez, l'une de ces militantes lors d'une manifestation en 2017 à Dublin.
Notre système actuel favorise les plus riches, celles qui peuvent se payer le voyage à l'étranger pour se faire avorter. Les autres, on les laisse sans soutien médical ou assistance de l'État. C'est vraiment un combat pour l'égalité et l'autonomie. Mais nous sommes du bon côté de l'histoire.
Karine Fischer, quelles sont les conséquences sanitaires, mais même sociales, pour les femmes irlandaises, sachant, comme on l'a entendu, qu'elles ont le droit, depuis 1992, de se rendre à l'étranger pour se faire avorter?
Alors, ces conséquences, elles sont nombreuses. Elles commencent à ressortir depuis quelques années sur le débat public. Dans le débat public, donc une bonne partie, entre 3500 et 4000 femmes partent chaque année en Angleterre pour se faire avorter, quand elles peuvent le faire, parce que ça leur coûte autour de 2000 livres anglaises. Donc, c'est un certain nombre d'entre elles ne peuvent pas se le permettre. Celles qui arrivent à se procurer des pilules abortives par contrebande, souvent en passant par l'Irlande du Nord, le font à leurs risques et périls, dans le sens où elles n'ont pas de suivi médical en cas de complications. Et puis il y a une détresse très très importante pour toutes les jeunes filles en particulier qui ne savent pas par où passer pour arriver à trouver une solution.
Une solitude, on l'imagine, puisque ces femmes ne peuvent pas parler de ça autour d'elles. J'imagine que c'est un sujet assez tabou en Irlande.
Oui, oui, c'est très très compliqué. Dans la plupart des articles de journaux que vous pourrez lire, les femmes donnent des noms d'emprunt. Certaines expliquent ces derniers mois qu'elles n'en ont jamais parlé autour d'elles. Et un des intérêts du référendum, on peut s'interroger sur la légitimité d'un référendum sur ce type de sujet, mais l'un des intérêts, c'est que il y a une libération de la parole et il y a des femmes qui ont fini par en parler à leur famille alors qu'elles leur avaient caché depuis des années pour essayer de les convaincre de voter pour l'abrogation de l'amendement de la Constitution.
Véronique Seyi, on l'entend, finalement, ça place les femmes irlandaises face à une sacrée inégalité face à l'avortement. Elles ont le droit de se rendre à l'étranger. Faut-il encore en avoir les moyens, on le disait ?
Oui. Alors, c'est aujourd'hui 9 femmes qui, tous les jours, quittent l'Irlande pour pouvoir aller avorter au Royaume-Uni ou en France ou ailleurs, et 3 qui avortent sur place. Alors, elles avortent sur place grâce à des sites type Women and Well ou Women Help Women, qui permettent aux femmes de pouvoir accéder à des pilules de bonne qualité pour avorter, mais elles avortent dans la solitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un professionnel de santé ne peut pas aider sur place une femme qui veut avorter. Ce qui quand même est à la fois très angoissant pour les femmes qui avortent toutes seules, bon, sachant qu'elles peuvent obtenir des conseils avec des sites importants, mais quand même, ça veut dire qu'elles, si jamais ça se passe pas bien, si elles ont des questions à poser, elles peuvent pas trouver de soutien médical. Et c'est aussi très frustrant pour les professionnels de santé qui sont prêts à aider ces femmes. Il faut savoir que dans le mouvement important qui existe en Irlande aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé, des médecins, vous avez un mouvement Doctors for Choice, par exemple, qui disent, mais nous, on voudrait, et on voit bien les inconvénients de cette loi aujourd'hui qui interdit aux femmes d'avorter. Nous, on est prêts à les aider parce qu'effectivement, l'avortement fait partie de la vie des femmes et on doit pouvoir avorter dans la proximité, dans son environnement, sans être culpabilisé, sans être stigmatisé. Donc on a un grand mouvement de professionnels de santé pro-choix qui veulent accompagner les femmes dans leur démarche. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, les femmes qui ne veulent pas avorter, on n'a jamais forcé une femme à avorter. Par contre, aujourd'hui, on oblige des femmes à poursuivre une grossesse dont elles ne veulent pas pour plein de raisons. Il est absolument aberrant d'obliger une femme, par exemple, à maintenir une grossesse alors qu'elle sait très bien que cette grossesse se passe mal, que, par exemple, le fœtus n'est pas viable, etc. Donc il est absolument indispensable que ce verrou saute pour que, enfin, on puisse légiférer sur une loi qui permettra aux femmes irlandaises d'avorter.
Karine Fischer, les personnes qui entourent ces femmes qui souhaitent avorter, Véronique Seyi parlait déjà des médecins, prennent des risques s'ils les aident, s'ils les conseillent.
Oui, c'est assez peu connu, mais il y a une vraie criminalisation de l'avortement en Irlande. En théorie, ils risquent jusqu'à 14 ans de prison. Il faut quand même le savoir. Alors c'est extrêmement rare qu'on arrive à ce type de situation, mais il y a quand même eu des cas de prison avec sursis. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Et on parle aussi assez peu du fait que les hôpitaux en Irlande sont pour la plupart sous contrôle catholique.
Oui.
Donc les médecins risquent de perdre leur emploi, tout simplement.
On va évidemment parler du poids de l'Église, Karine Fischer, mais en tout cas, ça c'est la loi qui fait peser des risques judiciaires à l'encontre de ceux qui pourraient aider ou soutenir des femmes qui souhaitent avorter. Mais le vote de vendredi, lui, ne va modifier que la Constitution. Alors c'est qu'une première étape, il faut faire évoluer la loi. Est-ce que le gouvernement du Premier ministre Leo Varadkar pourrait aller plus loin ensuite?
Alors, il y a un engagement du gouvernement vers la possibilité d'avortement sans restriction jusqu'à 12 semaines, voire plus en cas d'inceste, de viol ou d'anomalie fatale. Donc, c'est présenté comme étant un peu couplé avec le référendum, mais rien ne sera fait après le référendum malgré tout. On peut supposer qu'il y aura un effet, et espérer qu'il y aura un effet d'entraînement, et que ça faciliterait l'adoption d'une loi de ce type, mais c'est pas encore gagné, et autant on peut supposer que le référendum pourrait passer, autant sur les questions vraiment plus précises, les décisions législatives, ce sera plus serré.
Parce que là, l'Irlande montre bien qu'elle a souvent recours au référendum sur des questions de société, donc 92 l'accès à l'avortement aux femmes qui se rendent à l'étranger, ou plus récemment en 2015 le mariage homosexuel. En France, tous ces sujets ont été légiférés, ce sont des gouvernements qui ont soutenu ces lois. Pourquoi en Irlande, cela passe par le peuple et pas par la loi ?
Alors c'est vrai que c'est assez spécifique, c'est lié à la Constitution et au fait que tout changement de la Constitution doit passer par référendum. Voilà, c'est pour ça aussi que les Irlandais ont des référendums sur les traités européens, contrairement à un certain nombre de pays européens. Voilà, c'est vraiment la Constitution et l'interdiction de l'avortement a été constitutionnalisée en 83.
Donc il était nécessaire de repasser par cette voie pour interroger les Irlandais qui n'auraient pas pu voter, par exemple, en 1983.
Exactement. Et c'est un petit peu c'est aussi ce qui permet peut-être, je pense qu'il y a une bonne stratégie, en tout cas, du côté des associations et du gouvernement qui a repris leur mot d'ordre, de passer par l'abrogation en tant que telle, parce que très peu de gens, malgré tout, se satisfont du statu quo. Ils considèrent effectivement, il y a une grande majorité qui considère que l'interdiction totale est problématique, et donc ça permet un premier pas, ce déverrouillage, plutôt que de poser la question de manière très technique ou très précise sur tel et tel cas systématiquement. Maintenant, ça reste compliqué effectivement d'avoir un référendum sur une question de ce type.
Véronique Seyer, il faut du courage politique dans un pays pour soutenir une loi sur l'avortement.
Oui, il faut du courage politique, surtout dans le climat actuel. Ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, dans tous les pays aujourd'hui où on a obtenu le droit à l'avortement, ça a toujours été d'abord une histoire de lutte, des femmes avec des hommes. Enfin, ça a toujours été une histoire d'un mouvement social pour obtenir ces droits. Ils n'ont jamais été acquis de façon facile, et ce sont toujours des droits qui sont facilement remis en cause. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, par exemple, où le droit à l'avortement a été remis en cause et où aujourd'hui il est autorisé dans des conditions très restrictives et où le gouvernement avait le projet de le restreindre encore.
Je vous propose qu'on reste encore un peu sur l'Irlande. Tout à l'heure, on a entendu une défenseuse de l'accès à l'avortement. On va maintenant écouter deux jeunes femmes qui, elles, ont marché récemment contre l'IVG dans leur pays.
C'est dingue que des gens se disent qu'on peut s'en prendre à la vie, quoi. On parle d'une chose vivante dans son ventre, c'est un bébé et on ne peut pas le tuer. Alors oui, je milite pour la vie.
Oui, et puis d'abord légaliser l'avortement et quoi ensuite, le meurtre?
Oui, parce qu'on tue quelqu'un, un humain.
Karine Fischer, la France a adopté une loi sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse en 1975. L'Irlande n'a toujours pas de loi. Comment on peut expliquer que le pays en soit là avec cette question qui paraît aussi sensible ?
Alors c'est lié au poids exceptionnellement fort de l'Église catholique, tout simplement en Irlande pendant très très longtemps. Les évolutions actuelles, c'est vraiment un long cheminement. Il faut se rappeler que le divorce était interdit jusqu'en 1995. Le mariage homosexuel donc en 2015. Ça a été très 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 long et l'autorité morale de l'Église catholique a été remise en question vraiment seulement à partir des années 2000. Et notamment à la fin des années 2000 avec des rapports successifs qui ont montré des violences et abus sexuels systémiques de la part de membres de l'Église catholique.
Ça veut dire que cette Église perd de l'influence en Irlande ?
Oui, on peut dire que vraiment depuis la sécularisation sociale irlandaise, elle date d'un certain point de vue des années 80. Ça pourrait d'ailleurs expliquer paradoxalement la constitutionnalisation d'interdiction de l'avortement parce que la hiérarchie catholique avait senti venir le vent. Mais depuis 15 ans, on a vraiment un effondrement de la pratique catholique, de le fait d'aller à la messe toutes les semaines. Ça représentait 80% des Irlandais il y a 30 ans. Maintenant, on est autour de 20%, même pas, et moins dans les grandes villes. Donc on est vraiment dans un mouvement de fond qui finalement va à l'encontre un petit peu de ce que Madame indiquait tout à l'heure sur le gros tour de bâton en Europe, ailleurs en Europe.
Alors c'est un poids de la religion, donc on a senti quand même effectivement reculer, et peut-être justement à travers le référendum pour le mariage homosexuel en 2015. Là pour le coup, l'Irlande donc a adopté cette loi seulement 2 ans après la France. Là pour vous, Karine Fischer, c'était aussi un signe que les Irlandais étaient prêts à aller un peu plus loin que ce que leur propose leur Église.
Oui, ça a été vraiment un moment très très fort en Irlande. Même les ceux qui se sont battus, les mouvements vraiment qui se sont battus pendant des années sur le sujet ont été surpris eux-mêmes. Il y a une campagne extrêmement intelligente menée sur le sujet. Et puis les Irlandais ont fini aussi par se dire par penser à l'image qu'ils donnaient à l'extérieur. Il y a eu un engouement aussi vers la fin de la campagne pour ce référendum pour le mariage homosexuel sur qui était autour de ça. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont revenus de l'étranger pour voter parce qu'ils étaient extrêmement attachés à cette image de l'Irlande et puis bien sûr aux droits eux-mêmes qu'on ouvrait de cette manière.
Alors le oui n'est pas encore gagné, hein, on le disait, les sondages sont assez serrés. Véronique Seyé, on a déjà vu des pays adopter le mariage homosexuel et être très frileux à celui de l'adoption d'une loi sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
Oui, je pense par exemple à l'Argentine, qui a été un des premiers pays à faire en sorte que le mariage homosexuel soit reconnu, à reconnaître les personnes transgenres. Et c'est seulement en ce moment qu'une loi est en projet sur l'avortement. Donc on voit bien qu'il y a un verrou autour du droit des femmes à disposer de leur corps, du droit des femmes à pouvoir maîtriser leur fécondité, et avec des retours en arrière réguliers. Ce qui me paraît important par rapport à l'Irlande, c'est qu'on a des mouvements très ancré, j'ai envie de dire localement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a une hypocrisie en Irlande autour de cette question de l'avortement. Tout le monde sait que des femmes vont avorter ailleurs et que les femmes vont avorter ailleurs pour plein de raisons. Comme je l'évoquais, il y a un mouvement, par exemple, Disabled for Choice, des personnes handicapées qui disent mais le choix il est pour tout le monde et on ne peut pas forcer à poursuivre une grossesse dont on ne veut pas. Donc on a des mouvements qui sont ancrés là aujourd'hui. Il y a vraiment une campagne très intelligente qui fait du porte-à-porte, qui explique la situation. Il y a des récits de vie qui sont importants et qui frappent aussi l'opinion publique. Et comme vous disiez, les femmes expliquent leur avortement, pourquoi elles ont avorté, comment elles ont avorté, et tout ce que ça veut dire de vivre ça dans la solitude, dans la culpabilisation. Et je pense que c'est un mouvement de fond, et j'espère vivement que ce mouvement de fond pourra aboutir à ce que ce verrou soit débloqué pour pouvoir enfin légiférer sur quelque chose qui permettra aux femmes de pouvoir avorter dans de bonnes conditions, puisque de toute façon elles avortent.
Je vous coupais juste, oui. Véronique Seyé, pour que on entende pour le coup que les Polonaises, elles aussi, prennent des risques pour aller avorter parfois ailleurs. Écoutez un extrait d'un reportage réalisé il y a quelques mois par RFI dans le nord-ouest de l'Allemagne, une petite ville à la frontière. Une clinique compte une équipe médicale polonaise pour accueillir justement les femmes polonaises qui cherchent à avorter. Vous allez entendre un médecin, puis une patiente.
Elles me disent leur peur, combien elles appréhendent d'être pointées du doigt dans leur pays. Elles ont peur que quelqu'un apprenne ce qu'elles ont fait. La question la plus fréquente, c'est si leur gynécologue peut se rendre compte qu'elles ont avorté. Celles qui viennent du sud de la Pologne craignent surtout leur prêtre. Elles ne veulent surtout pas qu'il soit au courant.
C'est terrible ce que fait notre gouvernement. C'est terrifiant, cette volonté de contrôler nos consciences, nos corps, nos décisions. Je ne voulais pas aller voir un médecin à Varsovie de peur de tomber sur quelqu'un qui critiquerait mon choix. J'ai passé Internet au peigne fin, j'ai aussi demandé aux copines. Quelqu'un m'a finalement indiqué cette clinique en Allemagne.
Véronique Seyé, quel point commun vous pouvez trouver entre la situation en Pologne et celle en Irlande? La Pologne, donc, qui a finalement reculé sur l'interdiction totale de l'IVG, c'était face à la mobilisation en 2016, mais ce droit est à nouveau menacé.
Oui, tout à fait. Et ce qui est important dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est effectivement la négation de la possibilité pour les femmes de choisir et de décider pour elles-mêmes. Quand ces femmes vous disent qu'elles ont peur, ben c'est vraiment grave. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que ce droit soit un droit auquel les femmes peuvent avoir accès, quel que soit l'endroit où elles sont, et qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les femmes. Pourquoi une femme en France aurait-elle plus de droits qu'une femme polonaise ou qu'une femme irlandaise par rapport au fait de maîtriser sa fécondité et de mener à bien une grossesse qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas?
Enfin, ça, merci. Merci beaucoup, mesdames. Véronique Seyé, membre du collectif Avortement. Karine Fischer, qui était en duplex avec nous grâce à France Bleu Orléans, professeur des universités. Merci à Léonore Krenik, Laurence Sarniguet, Emmanuel Sevin et Fabrice Viollet à la réalisation. Tout de suite, le retour de l'info.